J'aimerais partir d'une réflexion suivante. Qu'est-ce qui est au cœur de la motivation à se faire baptiser? Qu'est-ce qui a motivé Alexandra, Jonathan, à désirer se faire baptiser? Il y a des tas de raisons. Il y a des tas de raisons. Mais je pense que toutes ces raisons convergent vers une seule raison. Et je crois que René l'avait évoqué. Ce qui est au cœur de la motivation de se faire baptiser, c'est la rencontre avec Dieu. Ce Dieu-là, quand on le rencontre, on a envie de le dire. On a envie de le publier. On a envie que le monde le sache. On a envie aussi que nous fassions route avec lui. On a envie de lui faire plaisir. On a envie de s'inscrire dans son projet. C'est un peu comme s'il venait vous dire, voilà mon projet avec toi. On a dit, oui, chouette, je veux ce projet-là, je veux m'inscrire dans ton projet, Seigneur. Voilà pourquoi on se fait baptiser. C'est un désir, c'est un ordre de la part du Seigneur, mais c'est aussi un plaisir pour nous. Connaître Dieu personnellement, ça révolutionne une vie de fond en comble. On ne reste plus le même. Alors j'espère que je suppose fin de matinée, début d'après-midi, enfin voilà quelque chose comme ça là, je suppose que ce peu que je vais partager avec vous contribuera à ouvrir les yeux de certains, de ceux qui parmi vous sont à la recherche, qui veulent peut-être faire un pas un peu plus, qui veulent peut-être connaître un peu plus, qui veulent peut-être décider pour Jésus. J'espère que ça sera une occasion pour eux. Vous savez, lorsque je commence à me dire connaître Dieu personnellement, je me dis, mais à quoi ressemble ce Dieu? Si on devait le présenter aujourd'hui à ceux qui ne le connaissent pas, comment présenterons-nous Dieu? Comment parlerons-nous de Dieu? Alors, heureusement que j'ai le secours de la parole de Dieu, de la Bible, et je voudrais aujourd'hui parler de deux choses concernant Dieu. Et ces deux choses, je les ai trouvées dans un prophète. Un prophète qui répond au nom d'Ésaïe, qui a vécu entre le 8e et le 7e siècle avant Jésus-Christ, donc 800 ans avant, et qui avait déjà prophétisé à propos de Jésus. Nous allons lire le début de son livre, Ésaïe chapitre 1. Nous allons lire du 1er au 18e verset, et je vais, à travers ces textes, présenter deux aspects qui caractérise Dieu. Ésaïe, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont ni été pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voilà un message qui glace. Oh, on se dit, oulala, avec ça, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Mais ce matin, il ne s'agit pas pour moi de parler de ce texte, même si vraiment j'ai beaucoup de considération pour cet auteur qui s'appelle Ésaïe, qui est un des tout grands prophètes de la Bible. C'est peut-être même probablement le prophète le plus connu dans le Nouveau Testament et celui dont on parle le plus, puisque c'est celui qui a annoncé plusieurs fois la venue de Jésus. C'est un prophète aussi qui a énormément écrit, et le livre d'Ésaïe est un livre auquel beaucoup d'auteurs du Nouveau Testament font allusion, notamment Matthieu dans les Évangiles, notamment l'apôtre Pierre, que ce soit dans les lettres. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, Ésaïe présente deux aspects. J'ai retenu deux aspects pour parler de Dieu. Premier aspect, verset 2. Dieu parle. Dieu parle. Nous avons un Dieu dont la caractéristique est qu'il s'exprime. Vous allez me dire, mais on le savait. Oui, c'est vrai, vous le savez. L'homme invente des divinités. Dans notre génération, nous avons plein de dieux que nous nous sommes inventés tout seuls. Le football, la cigarette, les filles, les sorties, l'argent et des tas d'autres dieux que nous adorons au plus profond de moi, de nous-mêmes. J'ai dit de moi. Je me souviens d'une sœur de l'église à Louvain-la-Neuve à qui j'ai dit, est-ce que tu pourrais donner ta voiture pour le Seigneur. Elle m'a regardé. Elle a dit, quoi? Ma voiture? Mais j'ai payé cher ma voiture. Donner à qui? À Dieu? Mais non! Je donnerai jamais à Dieu. Je dirai à Dieu, si tu veux me donner quelque chose, tu me demandes quelque chose. Ouais. Demande-moi autre chose, je te donnerai, mais pas ma voiture. Vous voyez? On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Dieu parle. Dieu s'exprime. Et que dit-il? Ciel, écoutez. Terre, prête l'oreille. Dieu parle, Dieu s'exprime. Dieu utilise des hommes pour atteindre des hommes. Et que dit-il? Écoutez. Prêtez l'oreille. Dieu parle à travers sa parole. Il demande aux gens d'écouter. Est-ce que les gens écoutent toujours Dieu? Hardy, heureusement, il est là à mon secours. Il dit non. Parce que lui, s'il n'était pas là, je crois qu'aujourd'hui, vous serez resté à me dire Mais heureusement, il est là, il dit non. Dieu parle, mais les hommes n'écoutent pas. Dieu parle, mais on ne l'écoute pas. Il est vrai ici dans ce texte, c'est un contentieux que Dieu a, c'est un problème que Dieu a. Ce n'est pas avec nous aujourd'hui, c'était un problème qu'il avait avec le peuple d'Israël à l'époque. Mais il nous prend à témoin. Il dit, terre, prête l'oreille. Il nous prend nous aussi à témoin pour que nous entendions ce qu'il a à dire. Quelque part, il nous prend à témoin pour nous dire aussi, voilà ce que je n'aime pas. Voilà ce que je désapprouve. Mes amis, avez-vous remarqué à quel point aujourd'hui, les gens n'écoutent plus. Avez-vous remarqué ça? Avez-vous remarqué comment les élèves n'écoutent pas leurs profs? Les enseignants ici, levez la main. Ah! Est-ce que je mens ce que je dis là? Les élèves, est-ce qu'ils écoutent? Bon, enfin, il y a une de mes élèves qui se cache là-bas, qui prie de tout son cœur que je ne la cite pas comme exemple. Les élèves n'écoutent pas les profs. Les enfants n'écoutent pas les parents. Vous avez remarqué même que quand les gens se parlent, moi j'ai déjà remarqué que dans les conversations, c'est très intéressant. Théo, je te parle. Théo, tu sais, ma vache, elle est morte. Théo me répond. Ah, mais tu sais, mon chat, il a fui la maison. Et puis je continue. Tu sais, ma vache, là, je l'ai fait incinérer. L'autre, il continue. Mais tu sais, mon chat, eh ben, je l'ai retrouvé 3 jours après. Il parle de son chat, je parle de ma vache. Personne n'écoute l'autre. Nous parlons, oui, mais nous ne parlons pas, nous ne nous entendons pas, nous ne nous écoutons pas. Nous sommes arrivés à ce monde-là aujourd'hui. Pourquoi y a tant de conflits entre les gens? Je vais dire quelque chose à quelqu'un, il n'a même pas compris la moitié de ce que je lui raconte. Mais il se passe un flash dans sa tête, je ne sais pas qu'est-ce qui se flash. Il a dit, ah, il m'a insulté, il m'a traité, je veux le voir, tout de suite. Je ne veux pas répéter les termes que les jeunes ont, parce que vous êtes nombreux ici. Je ne vais pas répéter vos termes, mais parfois j'en entends des termes à l'école. Je dis, maman mia, rien que d'entendre comment il va taper l'autre, je dis, il est déjà mort avant même qu'on le frappe. Les gens n'écoutent plus. Les gens ne s'entendent plus. Cause toujours. Ce que tu me dis n'est pas important. Ce que je te dis est important. Mais ce que toi tu as à me dire, ce n'est pas important. Non, je n'écoute pas. Et ce qui est encore plus grave, comme en ce temps-là, les gens n'écoutent pas Dieu non plus. Dieu, ça sert à quoi Dieu? Dieu, il n'est pas important dans l'existence de l'homme. Aujourd'hui, vous parlez de Dieu autour de vous, les gens sourient, ils vous trouvent que vous êtes un peu bébête comme ça. Ou bien vous appartenez peut-être à une autre époque qui n'existe plus. Ou peut-être même que vous êtes un extraterrestre qui est tombé par erreur sur la terre. Ou peut-être que vous êtes vraiment complètement... Vous savez que en Russie, au cœur du communisme, quelle était la raison pour laquelle on arrêtait les chrétiens? Une des raisons, c'était qu'ils étaient fous. Oui, prêcher la parole, c'est de la folie. Donc, on t'arrête, on te met en prison, en psychiatrie. On te donne des médicaments pour te calmer les nerfs parce que tu es en train de parler de Dieu et que tu es fou. Les gens n'écoutent pas Dieu. Pourquoi? D'après ce texte, pourquoi les gens n'écoutent pas Dieu? D'après ce texte, les gens n'écoutent pas Dieu parce qu'ils sont rebelles à Dieu. Parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Verset 2. Mais ils se sont révoltés contre moi. Les gens ne s'écoutent pas aujourd'hui, vous savez pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas l'autorité. L'autorité, ça dérange. Comment? Pourquoi je devrais écouter quelqu'un d'autre que moi-même? Pourquoi devrais-je, en regardant au miroir, ne pas m'admirer moi-même et admirer quelqu'un d'autre? C'est moi l'autorité. C'est pas l'autre. Les gens sont révoltés contre Dieu. La rébellion, c'est l'attitude qui consiste à rejeter l'autorité, à refuser de reconnaître l'autorité. Et Dieu s'indigne. Il dit, le bœuf, eh ben, il connaît son possesseur, le bœuf. L'âne, il sait au moins où est la crèche de son maître. Mais Israël, connaît rien. Pourquoi? Parce qu'il refuse l'autorité de Dieu. Aujourd'hui aussi, mes amis, notre société est une société qui rejette toutes sortes d'autorités. On rejette les enseignants parce que, à travers eux, c'est l'autorité. On rejette les parents parce qu'à travers eux, c'est l'autorité. Vous savez, mes amis, qu'on commence à frapper les ambulanciers. Vous savez que les ambulanciers commencent à les taper dessus. Quand on appelle une ambulance et qu'elle arrive 8 minutes après, c'est 8 minutes de trop. Et les pauvres ambulanciers reçoivent des baffes avant d'intervenir. Vous imaginez? Les ambulanciers ont dû demander au ministère de l'Intérieur de faire des formations pour pouvoir faire face à ce genre de stress. Vous savez qu'on frappe aussi les pompiers. Quand les pompiers interviennent à certains endroits, on les frappe aussi. Parce qu'ils sont trop durés. Ils devaient venir comme ça. Tomber du ciel, boum, avec tous les moyens et agir. Alors, on frappait déjà les policiers. Hein, ça... Hein? Il y a même les jeunes qui ont même produit des hip-hop, des rap, hein? Où ils expriment très clairement leur envie d'en finir avec les policiers qui existent sur la terre. Hein? On frappait déjà les policiers, on frappait déjà les contrôleurs des bus et des trains, n'est-ce pas? Parfois on les frappe tellement qu'ils en meurent. Hein? On frappait déjà les gardiens de prison. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes incarnent l'autorité. L'homme aujourd'hui veut être sans Dieu, sans maître. Alors, ce texte nous dit aussi quelle est la cause de la rébellion. Pourquoi l'homme est rebellé? Quelle est la raison pour laquelle l'homme est rebellé? Vous allez voir, verset 4, « Malheur à la nation pécheresse ». Le péché est la cause de la rébellion de l'homme. Et vous avez vu comment il présente le péché ici? Il dit que le péché est une maladie grave qui affecte le cœur et le corps. Le péché, c'est le choix d'une vie sans Dieu. Le choix d'une vie où l'on se livre à soi-même, à sa nature humaine. Or, cette nature, elle est complètement déchue. Le péché a des graves conséquences. Voyez un peu comment Dieu se présente. Dieu parle. Première caractéristique. Mais quand il parle, il dit « écoutez ». Mais il se présente aussi quand il parle. Il se présente comme qui? Verset 2. « J'ai nourri et élevé des enfants ». Dieu se présente comme un père. C'est un père. Il a pour l'humanité des sentiments de père. Il veut être un père pour nous tous et pour chacun de nous individuellement. Dieu a des sentiments comme un père, avec un amour comme un père. Un vrai père va aimer son enfant, même si son enfant va en prison. Un vrai père va continuer encore à faire toutes les démarches, à croire à l'innocence de son enfant, même si cet enfant est un coupable. Un père est rempli d'amour. Dommage que ce ne soit pas toujours le cas pour les hommes. Mais un père, c'est quelqu'un qui aime. Dieu est un père qui aime. Dieu vous aime. Dieu m'aime. Dieu aime chacun de nous individuellement. Dieu se présente aussi, vous avez vu aussi, comme le Saint d'Israël. Verset 4. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Deux choses donc. Le Père, mais aussi le Saint d'Israël. Un saint, c'est quelqu'un. Dieu en tant que saint, la sainteté de Dieu, ça veut dire que Dieu est pur, que Dieu est séparé du mal. Il a en horreur le mal. Voyez-vous? Dieu est un Dieu qui nous aime. Et en même temps, Dieu est un Dieu qui est comme un père. Et aussi, c'est le saint. Le saint, parce qu'il veut avoir avec nous un rapport qui soit un rapport qui soit en dehors du mal, en dehors de la rébellion, en dehors du péché, en dehors des compromis avec tout ça. Deuxième caractéristique, ah, je crois que je vous annonce une bonne nouvelle, je suis au milieu. Je suis à mi-chemin. Deuxième aspect, le Dieu dont je parle, dont Ésaïe parle dans ce texte, est un Dieu de salut. C'est un Dieu qui veut sauver. C'est un Dieu qui offre le salut. Verset 10. On peut remonter un peu, Jaco, si tu veux. Dieu prend à témoin deux nations, Sodome et Gomorrhe. Ces deux nations symbolisent les nations pécheresses. C'est les nations qui ont commis le comble du péché. Au point tel que, dans la colère, Dieu a brûlé les villes. Il a envoyé le feu et ces villes ont disparu. Voilà que Dieu dit, il prend un témoin, il s'adresse au Sodome, à ces deux villes en disant, écoutez ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, eh bien, moi j'en ai marre. J'en ai marre du comportement de mon peuple. J'en ai marre de la façon dont ils se comportent. Je vous prends un témoin pour vous dire à quel point je déteste les actes religieux de mon peuple. Ils font des sacrifices. Ils offrent des holocaustes. Ils font plein de choses. C'est comme nous aujourd'hui, on pourrait dire, eh bien, les gens viennent à l'église. Ils écoutent ce que c'est que l'amour du prochain. Et dès qu'ils sortent dehors, le premier prochain qu'ils trouvent, c'est le tabassage en règle. Ah, il aime encore le prochain. Nous, aujourd'hui, nous sommes un peu ce reflet-là aussi. Nous venons à l'église parfois. Nous montrons que nous respectons certaines règles, certaines pratiques religieuses. Mais le plus important pour Dieu, c'est quoi? C'est l'attitude du cœur. C'est le comportement dans la sincérité. C'est la recherche du bien comme il le veut. Ce n'est pas les actes religieux que nous posons qui vont nous sauver. La religion ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est notre attitude de cœur. C'est cette révolution qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, Dieu dit, je n'aime pas ces actes religieux. Je n'aime pas cette attitude-là. Pourquoi? Parce que tout en posant les actes religieux, le peuple continue à faire le mal, à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Alors Dieu n'est pas d'accord. Et qu'est-ce que Dieu propose? Et ça, nous commençons à aller à la fin maintenant. Dorcas, tu peux te réveiller. On va à la fin. Waouh, il y en a qui ont compris ça quelques minutes après. C'est ça qui est bien. Hein? Quand quelqu'un prêche comme ça, il voit tout le monde. Il voit ceux qui dorment et ceux qui sont debout. C'est génial. Il voit ceux qui le regardent comme ça, là, avec des yeux en train de hésiter entre le sommeil et... C'est génial, quoi. Bon, allez, j'espère que j'ai à nouveau votre attention. Dieu propose, il propose au peuple de changer de comportement. Il leur propose de changer leur attitude. Il leur demande de changer leur disposition de cœur, de cesser de faire le mal et d'être maintenant enclin à faire le bien. Dieu dit ça. Parce que c'est cette attitude-là qui va nous préparer à rencontrer Dieu. C'est ça qui va nous préparer à discuter avec lui. Verset final. Venez et plaidons. Plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Moi, j'aime bien le mot plaider. Parce que quand on parle de plaider, on sous-entend quoi? Un procès. Avec une plaidoirie, une défense. Venez et plaidons. Si en réalité, il s'agissait d'un procès devant le Saint d'Israël, vous pensez que nous pourrons être non coupables? Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça. Non coupables. C'est impossible. Hein? On est coupables devant lui. Nous sommes pécheurs. Et rien à faire. On ne peut pas plaider non coupable. On doit plaider coupable. Parce que devant le Saint d'Israël, au regard de tout ce que les gens font là, il n'y a aucune chance d'être épargné. Aucune chance. Mais ce qui est merveilleux dans ce procès, ce qui est magnifique, c'est que Dieu prend en charge le cours du procès. Dieu désire que nous soyons acquittés. Dieu veut que de ce procès, on ne sorte pas condamné, mais qu'on sorte acquitté. Dieu nous invite à sa rencontre pour mettre fin au conflit qui lui oppose, qui s'oppose, qui nous oppose à lui. Il veut sauver l'homme du péché. C'est pour ça que je dis, dans le deuxième aspect de Dieu, Dieu est un Dieu qui sauve. Et Dieu sauve par la rédemption, par le rachat. Dieu nous rachète. Il rachète notre, il paye à notre place le prix de nos péchés. Il rachète, il nous rachète ainsi. Exactement comme celui qui rachète un esclave. Un esclave qui était destiné à quelqu'un ou quoi qui devait être vendu, qui le rachète pour lui donner la liberté. Dieu nous rachète. Et ici, je vais déjà dépasser le cadre de ce texte. Comment Dieu nous sauve-t-il? Dieu nous sauve par son Fils Jésus-Christ. La boucle est bouclée. On revient à ce que nos amis d'aujourd'hui ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'ils ont compris ce que je viens d'expliquer, qu'ils étaient des pécheurs. Mais que Dieu est un Dieu du salut, de la rédemption, un Dieu qui pardonne. Que Dieu est un Père. Bien qu'il soit saint au point d'avoir horreur du péché, bien qu'il condamne le péché, bien que Dieu vive un drame. Vous savez, mes amis, je dois vous dire une chose. C'est un véritable drame dans le cœur de Dieu que d'être à la fois ce Père qui aime et en même temps ce Dieu qui condamne profondément le péché en nous. C'est un drame d'aimer quelqu'un dont on déteste profondément les actes. C'est un drame. Mais ce drame a été résolu à Golgotha. Dieu a envoyé son Fils qui est venu mourir à la croix. Alors ce matin, voilà, vous comprenez, hein, c'est entre le matin et l'après-midi. Hein. J'aimerais que vous puissiez vraiment saisir cela, que Dieu rachète nos, il nous rachète à un grand prix. Il fait disparaître le rouge cramoisi, le rouge qui nous accuse, et il fait plutôt apparaître le blanc de l'innocence. Dieu veut aujourd'hui encore le faire. Alors, je ne sais pas si parmi vous, ce matin, vous n'avez pas encore fait le pas de décider pour Jésus. C'est peut-être le bon moment. Si par contre, pour vous c'est clair, Jésus est votre Seigneur et votre vie, alors aujourd'hui c'est un sujet de joie de nous rendre compte que nous avons un grand Dieu qui est merveilleux.